Nous lisons maintenant trois textes pour la prédication tout à l'heure. Déjà dans l'évangile de Jean, premier chapitre, des versets 1 à 3, puis 14 à 18, dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous passons au verset 14 de ce même chapitre, jusqu'au verset 18. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le deuxième passage dans Colossiens, au chapitre 2. Si ça dit ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Terminons dans l'Ancien Testament, prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
Bonjour à chacun, quelle joie de pouvoir à nouveau étudier la parole de Dieu ce matin ensemble. Mais j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous avez tous respiré ce matin? Oui, parce que sans respiration, on serait déjà mort. Hein? C'est d'accord, Stan. Hein? Eh bien, on a tous respiré de l'oxygène pour vivre. Eh bien, de même, nous avons besoin du Saint-Esprit afin de comprendre les paroles de Dieu. De même que nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Alors, en ces temps de Noël, après la réflexion de l'année passée, oula, ça fait une année, on arrive à revenir une année en arrière, on a parlé d'un sujet ensemble. En fait, nous avions parlé de Jésus qui était homme, comme nous. Il était né comme nous, il avait grandi comme nous, on avait vu tout ça ensemble. Et je vous propose cette année de nous poser une autre question. Jésus est-il réellement Dieu ? Était-il Dieu dans le ventre de Marie ? Était-il Dieu dans la crèche, dans le temple à 8 jours, lorsqu'il était circoncis, ou à 12 ans, lorsqu'il parlait avec les chefs du temple, à 30 ans, lorsqu'il était baptisé, lors de ses souffrances, lors de sa résurrection, lors de son ascension ? Est-ce que Jésus était Dieu ? Jésus, est-ce qu'il était Dieu avant sa naissance ? Est-ce qu'il l'est encore maintenant ? C'est vrai que de multiples croyances et de fausses religions le nient aujourd'hui, très clairement. En fait, ils ne croient pas, ou aucune en fait, ne croit que Jésus est Dieu et homme, comme la Bible l'enseigne. Par exemple, les témoins de Jéhovah croient que Jésus a été créé par Dieu avant la création du monde. Et il est vu comme un petit Dieu, mais pas comme étant le Dieu éternel. Les Mormons disent que Jésus est né d'un père et d'une mère céleste, et qu'il est le frère d'esprit de Lucifer. Dans le New Age, il est dit que Jésus est un maître éclairé. Les musulmans disent que Jésus est uniquement un prophète, même s'il croit à la naissance virginale. Mais alors, quelle est la vérité à propos de Jésus-Christ ? Eh bien, c'est dans le livre qui nous rapporte le témoignage de Jésus-Christ que nous allons nous tourner. Celle qui nous parle de sa vie, de l'explication de pourquoi il est venu sur cette terre. Parce que, en fait, la Bible, c'est la révélation de Dieu, c'est la vérité. Et en l'ouvrant et en l'étudiant, eh bien, nous trouvons les vérités concernant Jésus-Christ. Alors, nous allons voir ce matin que Jésus est Dieu depuis toujours, pour toujours, et qu'il n'y a pas eu d'interruption. Mais on ne va pas avoir un exposé systématique qui va en fait voir tous les aspects de l'Écriture. Ce serait beaucoup trop long ce matin. Et en fait, ce qu'on va faire, on va surtout se concentrer sur quelques aspects que nous pouvons voir lors de sa naissance, lors de son arrivée en tant qu'homme sur cette terre. Et la naissance de Jésus-Christ, homme, a d'ailleurs été ponctuée de choses tout à fait extraordinaires, étonnantes, glorieuses. Et ces choses, si elles ne sont pas des preuves formelles de sa divinité, en fait, vont le glorifier en tant que tel. Alors on parlera d'abord ce que Jésus était avant l'an zéro. C'est la partie A, ici sur le tableau ou sur vos feuilles. Ensuite, nous parlerons plus longuement de la nativité, c'est le point B. Et nous verrons sa conception miraculeuse. On verra le faire-part de naissance glorieux. Et nous verrons aussi le cadeau de naissance somptueux. Et pour terminer, nous prendrons quelques minutes pour parler de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Commençons par parler de ce que Jésus était avant sa naissance dans un corps d'homme. Nous avons le texte de Jean 1:1 que nous avons d'ailleurs appris par cœur il y a quelques semaines. Vous vous souvenez encore, on vient de le lire tout à l'heure. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, comme on a pu le voir au verset 14 et suivant, eh bien, nous permet de voir que cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est donc dit que Jésus était Dieu au commencement. Donc, s'il l'était au commencement, c'est qu'il existait déjà avant. Jésus est Dieu depuis toujours. Et Jean 1:1 n'est pas le seul endroit où il est dit que Jésus existait avant sa naissance. Dans un corps d'homme à Bethléem, hein, Jésus lui-même, qui est d'ailleurs le mieux placé, qui est mieux placé que lui pour le dire, Jésus lui-même en a parlé. Et il a dit par exemple dans Jean 8:58, « en vérité je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Abraham, hein, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Avant Abraham, Jésus était déjà. Ou encore dans sa prière à son père, il lui dit ceci dans Jean 17, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus existait même avant le monde, avant la création. Il est Dieu depuis toujours. Et Jésus est devenu une fois homme sans pour autant arrêter d'être Dieu. Alors j'aimerais vous donner une image, mais c'est une image limitée et incomplète. Donc il ne faut pas dire que c'est exactement comme ça, mais c'est pour un peu essayer de comprendre. On pourrait dire que Jésus est devenu homme un peu comme s'il avait pris l'habit d'un homme. Comme si nous nous déguisions en singe, par exemple. Je connais les singes, hein. Alors, c'est comme si on se déguise en singe et qu'on mange comme les singes, on habite comme les singes. Dans les arbres, souvent, on ne parle pas, mais on fait des cris comme les singes, on n'utilise pas son téléphone portable, ils font pas ça les singes, on se déplace seulement à pied, enfin voilà, quand même relativement limité. Mais on resterait des hommes, avec la capacité de faire bien plus, tout en étant vu comme étant un singe. Bien, cette illustration, qui est bien sûr très faible et limitée, mais nous apprend à comprendre un tout petit peu ce que Jésus a fait. Lui, Dieu, a pris la nature d'homme. Il a mangé comme tous les hommes, habité parmi les hommes, parlé la langue des hommes qui l'entouraient. Et ce n'est que quelques fois dans son ministère de 3 ans qu'il a utilisé ses capacités divines, comme par exemple arrêter une tempête. Ça, nous, on n'arrive pas. Donc Jésus, c'est vrai, parfois dans son ministère, a fait des choses qui sont en lien avec sa divinité. C'est vrai, parfois. Hein, comme arrêter le vent, multiplier du pain, changer de l'eau en vin, ou guérir uniquement par la parole. C'est vrai. Mais rappelons-nous une chose dans cette première partie. Jésus a toujours existé en tant que Dieu dans le passé. Toujours. Passons maintenant à la partie B, ici. Cette partie B. Avec la naissance, ou la conception plutôt, la conception miraculeuse. On a la partie Jésus-Dieu, ici Jésus-Homme. Donc c'est un tout. Hein? Donc si Jésus est devenu homme, il est également resté Dieu. Et il y a une première différence entre nous et Jésus, c'est sa conception miraculeuse. Or, pour vous comme pour moi, ce sont en fait nos parents qui, l'expliquant très simplement, ont permis à la graine du papa de rencontrer le petit œuf de maman pour former un bébé. Ce bébé, c'est donc vous et moi, et nous avons grandi pour atteindre l'âge que l'on a maintenant. Pour Jésus, nous allons lire dans la Bible qu'il est venu à l'existence un peu différemment. Et on est sûr que c'est vrai ce qu'on dit, parce qu'en fait c'est un ange qui a parlé, un ange qui est au service de Dieu, qui ne ment jamais, et il parle ce qui se fera à sa future maman. C'est dans Luc 1, verset 30, si vous voulez suivre avec moi. Luc 1, 30. L'ange lui dit, à Marie, hein, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produirait-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc pour Jésus, il n'y a pas eu de papa humain. C'est le Saint-Esprit qui a agi dans le ventre de Marie, la maman de Jésus, pour former un bébé. Jésus est né d'une conception miraculeuse, parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus était donc Dieu alors qu'il était un bébé humain dans le ventre de Marie. Et comme Jésus était dans le ventre de Marie comme humain, certains disent que Marie est la mère de Dieu. Bien, ce n'est pas tout à fait juste. Marie n'est pas la maman de Dieu qui n'est jamais née. Elle est la maman de Jésus homme. C'est simplement que Jésus était homme et Dieu en même temps. Il est vrai que c'est difficile, même, disons, insurmontable pour notre intelligence, de comprendre comment c'est possible. Mais c'est la vérité que la Bible enseigne. Jésus était Dieu avant d'être dans le ventre de Marie, on a vu ça. Hein? Il était Dieu avant d'être dans le ventre de Marie. Et il est resté Dieu en venant dans le ventre de Marie. Hein? Jésus existait avant que Marie soit née. Il a été conçu sans père humain et il est resté Dieu en devenant homme. Jésus est resté Dieu dans le ventre de Marie, également après sa naissance, en tant qu'enfant né d'une femme. Jésus a été conçu de manière miraculeuse. Il n'a pas de papa humain. C'est vrai, quand je réfléchis un petit peu, un instant, à la grandeur de Dieu. Vous avez déjà réfléchi à la grandeur de Dieu? Dieu qui est tout puissant, au-dessus de toutes les galaxies. La terre, c'est une poussière pour lui. Et sur cette terre, une personne n'est qu'un grain de poussière. Quand vous allez sur une montagne et que vous regardez la vallée et que vous essayez de regarder une personne, elle est très très petite. Et imaginez, dans le ventre d'une mère, c'est encore très petit. Donc, qu'un Dieu si grand a pu venir sur terre de manière si petite, c'est en fait un Dieu tout-puissant. un Dieu extraordinaire. C'est le seul Dieu capable de faire cela. Et là, j'ai demandé à Stan de venir m'amener un petit papier. Voilà. Il manifeste en fait ici cette conception miraculeuse. La conception miraculeuse. Donc là on voit la terre est un petit grain dans l'univers et sur la terre une personne dont on la voit pas et dans la personne donc l'enfant qui grandit aussi est tout petit. Donc le Père céleste, parce que Jésus a un Père, hein, le Père céleste du Dieu devenu homme a fait part de la naissance de son Fils de manière glorieuse. Et il l'a fait de deux manières. C'est notre deuxième partie, le faire part glorieux. Le faire part glorieux. Et Dieu a fait deux faire part différents pour la naissance de Jésus, et tous les deux étaient glorieux. Le premier, en fait, c'est une annonce locale faite par un ange accompagné de la gloire de Dieu et un chant chanté par des milliers d'anges louant Dieu. Ça, c'est un faire-part, hein. Il a annoncé cela, hein. On lit ça dans Luc 2, les versets 8 à 15, où il est dit ceci. Il y avait dans cette même contrée, donc c'est local, hein, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur parut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous retrouverez un enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » C'est comme quand on reçoit un faire-part de naissance, mais on a envie d'aller voir l'enfant. C'est exactement ce qui se passe ici pour les bergers. Vous ne trouvez pas que c'est un faire-part glorieux? Quand vous êtes né, de jolies cartes de naissance ont été envoyées, peut-être un SMS, enfin il n'y a peut-être pas d'SMS encore à l'époque, ou un coup de téléphone l'a précédé, ou une annonce lors d'un culte. Le texte de faire-part contient parfois un verset biblique, le lieu de naissance, la date, le poids, la taille, le nom des parents, des frères et sœurs, s'il y en a. Mais connaissez-vous quelqu'un qui, dès qu'il est né, un ange a annoncé sa naissance? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ou un ange a annoncé... Mais pas seulement ça. Et ensuite, des milliers d'anges, des myriades d'anges, des millions, enfin milliards, enfin, énormément d'anges se sont joints à lui pour annoncer cela d'une manière glorieuse. Et vous savez, l'ange était tellement glorieux que les bergers ont eu de la crainte. Parce que quand on est face à la gloire de Dieu, on ne peut que avoir de la crainte. Et vous savez, ces anges qui chantaient là, pour se faire parler, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient qui était dans la crèche. C'était leur supérieur qui était dans la crèche et qu'ils annonçaient. En fait, jamais pareille chose ne s'est passée pour la naissance d'un autre enfant que Jésus, homme Dieu. Et le texte de faire part de Jésus est d'ailleurs impressionnant, hein? L'annonce d'une joie pour tout un peuple. Celui qui est né est le Sauveur. Il est le Christ. Il est le Seigneur. Et l'ange leur donne également le lieu où ils pourront trouver cet enfant qui est réellement né. C'était une personne réelle, vécue sur cette terre avec un corps. Jamais pareil titre n'ont été donnés à un enfant autant à Jésus, homme Dieu. Il est Sauveur, c'est-à-dire celui qui nous sauve du péché. Il est le Christ, c'est-à-dire le seul que Dieu a oint, prophète, roi et serviteur. Il est le Seigneur, c'est-à-dire celui que l'on doit respecter, à qui il faut obéir, qui est au-dessus de tout. Alors, lors de la naissance de Jésus, le faire part de naissance était une annonce glorieuse, avec des paroles extraordinaires. Et Dieu a également écrit un deuxième faire part pour ceux qui habitaient plus loin. Vous connaissez le deuxième faire part ? Il établit un signe, une étoile. Une étoile. Il a mis une étoile dans le ciel qui annonçait la naissance de son fils. C'est un peu comme s'il avait envoyé ce faire part. Lou, tu veux venir nous amener le faire part ?
Voilà, voilà le faire part.
Envoyé. Des multitudes de l'armée céleste, une étoile, donc qui était vue jusqu'en Orient. Et jamais, pareil signe n'a été mis dans le ciel. Est-ce que vous connaissez un père, autour de vous, qui a mis une étoile dans le ciel pour la naissance de son fils ? Moi, j'en connais pas, disons. Il me semble même que ce n'est pas possible. C'est le seul pour qui c'est arrivé. Et ce signe a amené des personnages importants à se déplacer jusqu'à Bethléem, le lieu de naissance. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont arrivés au bon endroit, l'étoile s'est arrêtée. Oh bon, ne me demandez pas comment ils ont vu que l'étoile s'est arrêtée, à quelle hauteur elle était, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'ils l'ont vu et reconnu, et qu'ils étaient capables de le faire. Et quand ils l'ont vu, ils avaient une grande joie. Parce que quand on trouve ce que l'on cherche, qui est le plus précieux de notre vie, on a une grande joie. Parfois on perd, vous avez déjà perdu votre porte-monnaie, avec toutes vos cartes d'identité, cartes de crédit, etc. Mais quand on le retrouve, je vous assure, on est content. D'accord. Bon. Si vous perdez un enfant, une personne, vous le cherchez un jour, deux jours, et que vous le retrouvez, ben vous êtes dans la joie. Mais quand vous cherchez celui qui peut vous donner le sens à la vie, qui peut vous purifier, qui peut vous donner la vie éternelle, ben c'est une joie immense de le trouver. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les mages. Quand ils le trouvent, eh bien, ils ont de la joie. Et les anges, comme l'étoile, annonçaient en fait la venue de Dieu sur terre. Les anges et l'étoile annonçaient la venue de Dieu sur terre. Et les mages ont trouvé celui qu'ils cherchaient. Et c'est là qu'on va découvrir ensemble le troisième élément, le cadeau de naissance. Voici ce qui est dit dans Matthieu 2, les versets 10 et 11. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie, par des mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On a relu ce qui s'est passé, donc on est dans l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît étonnant pour des personnes qui viennent visiter un nouveau-né dans ce texte ? Qu'est-ce qu'ils font, ces mages, lorsqu'ils voient l'enfant ? Est-ce qu'ils lui font des petits couzi-couzi ? En s'émerveillant du beau bébé, ou bien peut-être il demande à la maman comment est allé l'accouchement, est-ce qu'elle va bien, est-ce que le papa est fier. En fait, on ne sait pas s'ils ont dit ou fait ces choses, mais on sait une chose, c'est que lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils ont fait quelque chose de très étonnant, ils se sont prosternés. Donc, se prosterner, se sont inclinés très bas. On ne sait pas s'ils se sont mis à genoux, hein, ça, on ne sait pas. Mais ils se sont prosternés pour l'adorer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui va rendre visite à un enfant et puis qui l'adore ? Ça serait un petit peu déplacé. On lui dirait, écoute, c'est bien que tu aimes cet enfant, mais il ne faut pas l'adorer. Hein ? Mais la personne ne les arrête. Hein. Donc, ils adorent cet enfant et lui donnent ensuite des trésors. De l'or, de l'argent, de l'encens et de la myrrhe. Florian, tu veux nous amener la petite illustration ?
Voilà, Marie et l'enfant avec les mages qui se courbent, avec le chapeau là, je ne sais pas s'ils avaient un chapeau, mais ils enlèvent leur chapeau en signe de respect et adorent Jésus.
Dès sa naissance, Jésus est adoré comme étant Dieu. Nul autre que Dieu ne doit être adoré. Ça, on le sait. Même encore aujourd'hui, personne d'autre que Dieu ne doit être adoré. D'ailleurs,
Là, j'ai une question pour les enfants. Et après, il y a les grands-enfants qui réfléchissent aussi, toujours. Hein. Mais les enfants, est-ce qu'il faut rappeler de l'histoire des amis de Daniel ? Les amis de Daniel, on leur a dit qu'ils devaient en fait adorer une statue. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Attention, on leur a dit, si vous ne le faites pas, on vous met dans le feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils n'ont pas adoré la statue. Parce qu'ils savaient qu'on n'adore que Dieu. Et Jésus, ici, déjà depuis sa naissance, il est adoré. Et Jésus, donc, est Dieu dans sa naissance, et il reste Dieu aussi durant toute sa vie. D'ailleurs, on voit l'aveugle né guéri qui l'adore. Il ne l'arrête pas. On voit Thomas qui l'adore. Jésus ne l'arrête pas. Jésus continue à être Dieu toute sa vie, tout le temps de sa vie d'homme sur cette terre. Après sa mission pour nous sauver, qu'il a accomplie sur terre, Jésus est retourné dans la gloire. C'est la partie C où nous pouvons déjà prolonger la ligne de Jésus jusqu'à en 2014, puis après on peut même aller plus loin, puis on met une flèche comme ça. Alors j'ai demandé avant à Mélinda si elle savait ce que c'était ce signe ici. Ça, c'est un signe qui veut dire infini, c'est l'éternité. Donc Jésus était Dieu depuis l'éternité, il était Dieu durant le temps où il était homme sur cette terre, et il continue d'être Dieu jusque dans l'éternité. Ok ? Et j'aimerais vous lire encore ce qui est écrit dans Philippiens 2, pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé ici dans cette partie-là. Philippiens 2, depuis le verset 7, il est dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et Jésus, homme, à sa résurrection, hein, on a ici sa résurrection, il a reçu un nouveau corps, un corps immortel, comme nous le recevrons aussi. Et donc, Jésus, avec ce corps immortel, va vivre pour l'éternité. Jésus sera toujours homme-Dieu, ou Dieu-homme, avec un corps immortel. Il a accepté d'ajouter cette nature humaine à sa personne par amour pour son peuple. Par amour pour toi, si tu es enfant de Dieu. Si tu ne crois pas encore en Jésus-Christ personnellement, n'hésite pas à venir en regrettant amèrement, en fait, le péché d'avoir rejeté jusqu'à maintenant. S'il a pu venir sur la terre en tant qu'homme, sans pour autant ne plus être Dieu, donc il a pu venir sur la terre en étant homme, tout en restant Dieu, ça, c'est quelque chose d'inimaginable. S'il arrive à faire ça, eh bien, il arrive aussi à changer nos cœurs. Il arrive aussi à nous transformer. Il a la toute-puissance. Dieu peut absolument tout faire ce qu'il veut. Et rien ne peut l'en empêcher. Et Jésus, il est encore Dieu aujourd'hui, on l'a vu ici. Il est encore Dieu aujourd'hui. Il n'est donc pas dépassé par les événements. Donc, quand on est dans des situations qui sont difficiles parfois, bien réfugions-nous auprès de lui. Il est Dieu. Il est tout-puissant. Et s'il arrive, lui, à venir sur cette terre dans un corps d'homme, eh bien, il peut aussi nous donner les forces nécessaires dans les situations dans lesquelles il permet que nous soyons. Alors, en réfléchissant à l'œuvre de Dieu qui est venu vivre parmi nous, Dieu qui est venu vivre parmi nous, en fait, on ne peut que s'émerveiller. Quel Dieu extraordinaire ! Il est venu parmi nous. Aucun autre Dieu n'a fait ça. Aucun autre Dieu ! Hein, le Dieu des témoins de Jéhovah, il n'est pas capable de s'incarner. Ou Allah n'est pas capable de venir dans ce monde. Il est trop tout autre. C'est ce qu'on m'a dit. Mais nous avons un Dieu formidable. Qui est tout autre, c'est vrai, mais qui aussi est venu sur cette terre. sur ce point minuscule, ce grain de poussière de notre galaxie, même jusqu'à devenir un enfant qui s'est formé dans le ventre d'une maman. Il l'a fait, pas parce qu'il en avait envie et qu'il trouvait ça sympathique. Il l'a fait pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour entrer dans une relation vivante avec Dieu. Et en nous repentant de nos péchés personnels, pas juste de péchés hypothétiques, et en croyant en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et il nous adopte en Jésus-Christ. Et nous pouvons, alors j'espère que vous l'êtes un petit peu plus encore aujourd'hui, être fiers de Dieu. Fiers de ses œuvres, des œuvres admirables, extraordinaires. Qui peut tout, même devenir un petit enfant dans une crèche, sans cesser d'être Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est ça qui rend Noël joyeux, en fait. D'ailleurs, les anges ont éclaté de joie devant cette merveille. C'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui, joyeux Noël. C'est vrai, notre Père, notre Dieu, si nous pouvons maintenant venir te parler, exprimer ce que tu mets sur nos cœurs, c'est parce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et que par lui, nous avons un accès auprès de toi, que nous ne pouvions pas avoir. Toi qui es le Dieu saint, parfait, sans tache, sans péché, il est impossible de nous approcher par nous-mêmes devant toi. Nous serions foudroyés par ta sainteté. Mais Seigneur, nous pourrons venir devant toi, parce que Christ est venu, a vécu une vie parfaite dans un corps mortel. Il a pris sur lui, à la croix, lui le juste, le saint, le parfait, la colère qui nous était réservée pour tous ceux qui croient. Seigneur, nous te louons et c'est vrai que nous pouvons être joyeux à Noël en nous réjouissant parce que Dieu est venu parmi nous et il est resté Dieu alors que tu étais dans une mangeoire, alors que tu as grandi comme nous en apprenant à marcher, à parler. Parce que tu as pris cette situation pour la vivre parfaitement, afin que nous puissions être vus parfaits devant toi. Seigneur, que ce Noël puisse être un Noël tout particulièrement joyeux, parce que nous comprenons ton œuvre extraordinaire. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.